Contrat ou alliance? Ah, pourquoi je vais vous parler de cela? Parce que, à mon sens, le mot alliance perd de sa valeur dans notre société. L'alliance, c'est bien plus qu'un contrat. Si je prends le contrat, c'est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. Et un contrat est valable jusqu'à ce que l'une des deux parties est consentante. Ça veut dire que le jour où l'une des deux parties décide de se retirer, ben, il peut y avoir rupture de contrat. D'ailleurs, c'est prévu dans pas mal de cas. Un contrat prévoit toujours une clause de rupture. Vous pouvez, par exemple, rompre votre contrat de travail, vous séparer, démissionner. Et ce que j'ai remarqué d'ailleurs dans les contrats, parce que j'ai pas mal étudié de contrats, si vous voulez, parce que j'ai pas mal travaillé avec, sur les appels d'offres publics, etc., de par mon métier. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait toujours des clauses donnant-donnant. Si l'une partie fait cela, l'autre fera ça. Vous voyez? Mais le contrat, c'est pas l'alliance. Le contrat, c'est bien plus... Dieu n'est pas un Dieu de contrat, on va le voir. Dieu est le Dieu de l'alliance. Et l'alliance, c'est une union qui est contractée par un engagement mutuel et total. Et elle inclut une promesse. Elle est à la fois un accord et un lien qu'on ne peut rompre. C'est pour ça que je vous ai mis l'image, si vous voulez, des deux alliances qui sont indissociables. Vous voyez ? C'est fort comme image. Ces deux alliances qui... On ne peut pas les retirer. Il y a que ceux qui font des tours de magie qui vous font des trucs comme ça. Et en fait, je m'aperçois aujourd'hui, mais je vous le dis, que notre société est construite sur des contrats. Des contrats commerciaux, des contrats politiques, des contrats. On voit ça dans le travail, dans la politique, dans le commerce, dans les assurances. Et il y a même le PACS. Le PACS, c'est un contrat entre deux êtres qui s'aiment et qui établissent un contrat. Et je me rends compte, en fait, que cette société-là, que ce contrat, il influence énormément les mentalités des croyants. Vous savez, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont pour le PACS, qui sont pour le contrat. Il y a même des chrétiens qui s'engagent pour faire des CDD dans les églises. Et ça m'est arrivé d'entendre quelqu'un venir me voir et dire, bah, tu sais, moi, je viens ici, mais je fais un CDD. C'est-à-dire, en gros, je sais que je vais repartir. Non, mais vous rigolez, mais en fait, je m'aperçois que dans notre comportement, donc dans nos mentalités, je m'aperçois en fait que le mot contrat est imbriqué en nous, et il fait partie presque de notre ADN. Alors que Dieu n'est pas le Dieu du contrat, c'est le Dieu de l'alliance. C'est pas le Dieu d'un truc qui est écrit, avec une clause en bas, je romps, mais c'est le Dieu de l'alliance, avec ses images, vous voyez. Et quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que c'est fort, mais Dieu n'a cessé de faire des alliances avec son peuple, avec les peuples, avec les nations. Il veut faire alliance et il ne veut pas signer de contrat. C'est pour ça qu'il a fait l'arche de l'alliance. Il l'a fait faire. Il l'a montré à Moïse. C'est-à-dire que devant le trône de Dieu dans le ciel... Vous vous souvenez de ce que j'ai dit la semaine dernière, nous sommes appelés à faire vivre les réalités du ciel sur la terre. En fait, quand Moïse fait fabriquer ça par Betsalel, il l'a vu dans le ciel. Devant le trône de Dieu, il y a l'arche de l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Quand je vous ai mis l'arc-en-ciel, hier matin j'ai vu un bel arc-en-ciel. En ce moment... avec tout ce qui tombe, pluie, soleil, il n'y a pas de misère pour voir des arcs-en-ciel. Mais Dieu fait alliance avec Noé. par l'arc-en-ciel. Et puis, il fait alliance par la croix. Et Jésus même, avant de mourir, il lève la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Vous voyez, Jésus, quand il vient, c'est pour faire alliance, pas pour faire un contrat. Quand je prends la coupe le dimanche matin, quand je prends le petit gobelet, alors il y a des puristes qui veulent des coupes, il y en a d'autres qui veulent des gobelets, mais quand je lève ça, je ne prends pas juste un peu de jus de raisin, je suis en train de dire, Seigneur, je prends ce vin, enfin ce jus de raisin, j'ai fait alliance avec toi. Je suis dans une alliance que nul ne peut rompre. Vous comprenez ce que ça veut dire de prendre le repas le dimanche matin? Est-ce que vous comprenez que lorsque nous faisons cela, nous manifestons, nous déclarons que nous sommes le peuple de l'alliance? Et je vais donc prendre ce texte que j'ai lu le jour d'un mariage, il y a 10 ans, déjà. L'Éternel lui dit, donc c'est, je vous explique un petit peu, plusieurs reprises Dieu lui a fait des promesses, il a déjà fait alliance avec lui. Et puis, Abraham dit, mais comment saurais-je que je vais posséder ce pays que tu me promets, Seigneur ? Et regardez ce que Dieu lui dit. L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans. 3 ans, tiens, ça correspond aux 3 années de ministère de Jésus. Prends une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. C'est gore, hein ? Il fait le boucher, quoi. Il coupe. Mais c'était la coutume de l'époque, c'est ce qu'on faisait. On coupait des animaux pour faire alliance avec quelqu'un et on les mettait de part et d'autre d'un petit chemin. Voilà. Voilà comment on faisait alliance. Heureusement qu'on ne fait plus ça aujourd'hui. Hein. Vous imaginez, quand on se marie, je fais alliance avec toi, mon amour, va chercher une paire de chèvres, etc. Au coucher du soleil, ça je vous le lire très vite, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur, une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux. Quand vous faisiez alliance, vous coupiez les morceaux, et puis vous passez entre deux. C'était un geste symbolique, important, parce que lorsque vous faisiez ça, quand vous faisiez alliance, vous étiez en train de proclamer qu'il me soit fait comme ces animaux si je ne respecte pas l'alliance. Purée, c'est bien plus que de passer la bague au doigt le jour de ton mariage. Hein. Et ce jour-là, l'Éternel fit alliance à Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. On va essayer de comprendre l'alliance, si vous voulez, ensemble. Alors, je ne vous promets pas de vous expliquer tout, parce que je n'ai pas de la notion sur tout concernant l'alliance. Je me sens tellement petit et parfois j'ai l'impression de ne pas tout connaître. Quoi. Je me dis, voilà, j'ai tellement besoin de découvrir cette notion de l'alliance. Mais néanmoins, il y a des choses comme ça que j'ai compris dans ces temps de méditation. Le premier, c'est Dieu qui définit les termes de l'alliance. Et ce n'est pas l'homme. Regardez dans ce cas présent. Il dit, prends trois animaux et coupe-les en deux. D'accord ? Prends les... Enfin, tu coupes. C'est Dieu qui détermine les termes. D'accord ? Et souvent, nous, dans l'Alliance, nous voulons définir aussi, donner notre avis sur les termes de l'Alliance. Et je vous invite, et je m'invite, à revenir avec un peu plus d'humilité. C'est sa parole qui donne les termes de l'Alliance. Et c'est à travers sa parole que je me conforme à l'Alliance que Dieu a établie. Donc, mettons de côté nos interprétations douteuses, ce que nous croyons. Vous savez, parfois, il est écrit, je vais donner un exemple. Parfois, on se trouve face à une situation. Et puis, par exemple, il est écrit, imaginons que Dominique me fasse une offense et qu'elle me fasse très mal au cœur, ce qui ne sera jamais le cas, j'en suis sûr, parce que tu es bonne, tu es une bonne personne, Dominique. Mais imaginons que Dominique me fasse du mal profondément et que ça touche bien plus qu'une petite offense et que ça m'amène dans des choses terribles. Ben, il y a des chrétiens qui disent aujourd'hui, alors que Jésus dit que je dois pardonner, alors que la parole de Dieu que je dois pardonner sans condition, qui disent « Oui, mais tu comprends, Bruno, il a beaucoup souffert, lui. » Et on ne cesse, vous comprenez, d'apporter, de diluer, de donner des interprétations alors que la Bible est claire sur le sujet. Et je vous invite vraiment, moi je m'invite en tout cas, à revenir à ce que dit la Bible. Et arrêter d'interpréter, Dieu dit, je fais. Ok ? Donc c'est Dieu qui pose les bases de l'Alliance, qui détermine les termes. L'Alliance est un lien très fort qu'on ne peut rompre. Vous savez que, bon, quand je romps l'Alliance, enfin je ne le fais pas, mais si je le fais, si je vais voir une autre femme alors que je suis marié, je suis adultère. Or, vous savez que la Bible parle d'adultère pour le peuple de Dieu aussi, qui est allé vers des péchés, vers l'idolâtrie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous pouvons briser l'alliance avec Dieu en désobéissant à ce que Dieu nous demande. Et ça m'interpelle parce qu'à chaque fois que je fais ce que Dieu ne veut pas, c'est comme si j'entamais, vous savez, le métal de l'alliance entre les deux. Comprenez ? Je suis en train d'attaquer à cause de ma désobéissance. Et vous savez qu'à chaque fois, la loi disait cela, que quelqu'un était infidèle, la sentence c'était la mort. Et c'est pourquoi Dieu demande à Abraham de couper ses animaux, de les mettre au milieu, pour lui bien lui faire prendre conscience que s'il ne respecte, qu'un homme ne respecte pas l'alliance, eh bien, la sentence c'est la mort. Donc, marcher avec Jésus, ça sous-entend quelque chose d'important, c'est que nous respections les clauses de son alliance. Et dans l'alliance, il ne pouvait pas y avoir d'alliance sans sacrifice. On va le voir après. De son côté, Dieu a fait et continue à faire sa part. Il a donné ce qu'il avait de meilleur, son fils Jésus. Et plus encore, il écrit, non seulement il a donné son fils pour mes péchés, son fils qui est venu avec la coupe de l'alliance, en disant cette alliance en mon sang, c'est la nouvelle alliance que je propose aux hommes. Mais en plus, regardez ce que Dieu a fait. Parce que quand Dieu fait alliance, il amène la bénédiction en même temps. Il dit, et regardez ce que nous dit Éphésiens, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et Dieu, il a fait toute sa part. Il a fait tout et il continue de faire alliance avec nous. Et il nous bénit de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Mais n'oublions pas quelque chose. C'est que la bénédiction dépend toujours du respect de l'alliance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que je vois apparaître en ce moment. Vous savez, des enseignements bénis-moi, bénis-moi. Parce qu'il y a des gens qui osent dire aujourd'hui que Dieu va beaucoup te bénir sans qu'on ait grand-chose à faire. Et ça, c'est grave. Dieu a donné ce qu'il avait, ce qui lui a coûté. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. J'imagine le cœur du Père voyant son Fils sur la croix, mourant pour les péchés des hommes. Il a dit, j'aime ma création et je veux les sauver. Mais il y avait beaucoup de peine, de tristesse dans le cœur du Père. Il a donné, ça lui a arraché le cœur de voir son Fils sur la croix. Mais Abraham, regardez ce qu'il a fait. Il a payé le sacrifice pour faire alliance. Abraham, lui, il a été appelé ami de Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il était, il a été prêt à faire pour Dieu ce que Dieu était prêt à faire pour l'humanité. Il est allé jusqu'à la montagne prêt à offrir son fils Isaac. Et cette notion de sacrifice est en train de disparaître complètement de l'Église. Viens à l'Église, tu vas être béni, tu vas voir, et tu n'auras rien à faire. Consomme, prends. Tu vas voir, Dieu veut te donner, te donner, te donner. Et puis, on finit par louer le Seigneur et de dire, donnez, donnez-moi. Et Jésus, en mourant sur la croix, a fait la part de Dieu. Il a accompli la part que nous ne pouvons pas faire. Je ne vous dis pas qu'il faut offrir votre vie pour être pardonné de vos péchés. Jésus l'a fait à notre place. Le sacrifice de l'agneau sur la croix est parfait, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Nous n'avons plus à offrir quoi que ce soit pour être sauvés. Dès lors que nous croyons que Jésus est mort pour la croix pour nos péchés. Mais ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas sa part à faire dans le sacrifice, dans cette alliance. Qu'est-ce que vous comprenez lorsque Paul dit en Romains, je vous invite, je vous encourage à offrir vos corps comme sacrifice, qui sera pour Dieu un culte raisonnable. Il est en train de dire, donnez votre vie à Dieu. Dieu a donné sa vie pour vous. Donnez votre vie à Dieu. Et vous savez que le meilleur moyen de prouver que nous donnons notre vie à Dieu, c'est quoi ? En donnant notre vie pour les frères. Nous avons connu l'amour de Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Vous voulez manifester votre alliance avec Dieu ? Donnez votre vie pour l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, donner sa vie pour l'autre ? Ça implique quoi ? Le renoncement. Je renonce à quelque chose que je suis ou que j'ai pour l'autre. Non, c'est pas ça. C'est l'exemple de Jésus. Et là, on est en train de lire quelque chose qui est important. Je suis en train de dire que si j'entre dans l'alliance en Christ Jésus, dans cette nouvelle alliance, ma manière de voir comment, de vérifier comment je marche vraiment dans cette alliance, c'est que je donne mon sacrifice pour l'autre. Mais c'est difficile de donner sa vie pour les autres, non ? Et je vous le dis, ceux qui ne donnent pas empêchent l'alliance de fonctionner correctement. Je prends l'exemple d'un mari et d'une femme. Vous savez pourquoi beaucoup de couples partent en vrille aujourd'hui ? Parce que c'est du donnant-donnant. Ah, nous sommes mariés par l'alliance, mais dans notre conception, c'est « je ferai ça si ma femme fait ça ». Non, c'est pas ça ? Ouais, il n'y a que moi alors qui raisonne comme ça. Il n'y a que moi qui ai besoin de me repentir, sans doute. Je donnerai lorsqu'elle me donnera. Alors regardez le mystère que Paul explique dans l'Épître aux Éphésiens. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le mari doit aller jusqu'au sacrifice de sa vie pour le bien de son épouse. Et trop d'hommes pensent à eux, et ils pensent des fois à faire de la muscu, avoir un beau corps, des belles tablettes de chocolat. Ils en oublient la femme qui est à la maison et qui peut parfois souffrir. Ce qui ne veut pas dire que les femmes n'ont pas de responsabilité. Je parle aux hommes parce que je me permets, j'en suis un. D'accord ? Et souvent, les couples ont besoin de revenir à l'alliance. Marie, aimez vos femmes. Femmes, aimez vos maris et respectez-les. Et s'il vous plaît, dans notre comportement, abandonnons le donnant-donnant. Je donne sans chercher à avoir en retour. Et regardez même jusqu'où ça va dans notre conception de notre service, de notre ministère dans l'Église. Il y a parfois des gens qui disent « Ah, je sers dans cette Église ou je fais telle chose dans l'Église, mais je ne vois rien en retour. » Avez-vous déjà remarqué ça ? Donnant, donnant. Est-ce que Jésus a fait cela ? Jésus a dit, il est écrit, hein, « Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jésus n'a pas, heureusement d'ailleurs, qu'il n'a pas attendu que je lui dise oui pour mourir sur la croix. Il a donné sans attendre. Le terme de l'alliance, c'est un engagement comblé à donner sans attendre en retour. Et puis, il est écrit dans Deutéronome, je sais, c'est dans l'Ancienne Alliance, mais n'empêche que il est écrit, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors j'ai pensé, vous savez, à ce passage de l'Écriture qui dit je souhaite que les hommes élèvent les mains pures devant Dieu et qu'ils prient. Ça m'a interpellé. Et je me suis dit, et des fois, Seigneur, j'élève les mains devant toi, mais elles sont vides. Ah, pas vous peut-être. Elles sont vides, Seigneur. Parce que c'est du donnant-donnant. Parfois j'entends, j'ai entendu, mais oui, je vous le dis, j'ai entendu des chrétiens dire, si Dieu fait ça, je ferai ça. Si vous l'avez dit, repentez-vous, demandez-lui pardon, parce que ce n'est pas le terme de l'alliance. Et parfois, peut-être que nos prières ne fonctionnent pas parce que nous présentons les mains vides devant Dieu. Vous comprenez ? Nous voulons rechercher la bénédiction sans l'alliance. L'alliance implique le sacrifice. Nous recherchons souvent la bénédiction, les biens, tout ce que Dieu veut nous donner. Mais Dieu veut nous donner, j'entends bien. Mais on ne respecte pas l'alliance. On foule aux pieds le sacrifice de l'agneau. On néglige ce que Dieu a fait. Et regardez, avec Abraham, qui passe au milieu ? Qui passe au milieu ? Est-ce Abraham ? C'est une boule de feu, la puissance de Dieu qui passe à travers. Et Dieu, lui, s'engage totalement dans cette alliance. Totalement. Il dit, moi, je donne tout. Et il l'a fait. Il a donné Jésus. Et les hommes sont là à dire, ah ouais, moi, attends, je suis pas prêt à donner. Hein. Et quand j'ai examiné mon cœur, et quand on le fait devant Dieu honnêtement, je peux vous le dire, il m'attire à pleurer, à se laisser travailler par l'Esprit de Dieu et de se dire, « Oh Seigneur, j'ai tellement de fois négligé ton alliance. Tellement de fois j'ai vu ce que ta parole me disait, Seigneur. J'ai entendu l'Esprit Saint me dire, n'y va pas, et j'y suis allé. Combien de fois j'ai fait ça ?» Et puis, je vous parlais encore pour comprendre l'alliance. C'est que, je ne sais pas si vous avez lu dans le passage, il y a Abraham a dressé, et puis il y a des oiseaux de proie qui viennent. Il y a, je ne sais pas ce que c'est, des pies, des corbeaux, des aigles, peu importe. Ils viennent pour voler le sacrifice d'Abraham. Et le diable, même s'il ne peut plus rien faire, parce que le sacrifice de Jésus a été accompli, et d'ailleurs il a tout fait, il a envoyé des oiseaux de proie à travers la tentation dans le désert, à travers Pierre. Il a voulu voler le sacrifice. Il a fait en sorte que Jésus ne soit pas assez pur pour que le sacrifice soit efficace. Il a tout fait pour voler. Mais aujourd'hui, le sacrifice parfait est accompli, nous dit la parole de Dieu. Donc, il ne peut plus toucher à ce sacrifice. Par contre, il touche encore au tien. Et il vient pour voler ce que toi, tu dois donner. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est fort ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'il va passer sa vie à te voler, à voler ce qui tu es, à voler ce que tu as reçu de la part de Dieu, à voler tes dons, à voler ton ministère, à voler des choses qu'il t'a confiées, des choses précieuses. Il cherche sans cesse à voler. Et il envoie ses oiseaux de proie, ce qu'on appelle les démons, pour voler ce qu'il t'a donné. Tous autant que nous sommes ici, nous avons reçu des dons. Tous autant que nous sommes, nous avons reçu des ministères. J'appelle ministères les services, d'accord? Tous, nous avons reçu des appels et Satan est venu voler l'Église. Il a envoyé des choses dans ta vie. Il a envoyé des expériences négatives. Il a envoyé des pensées dans ton cœur. Et ça a lié ton cœur. Et aujourd'hui, il est prêt même à enlever tout ce que tu peux donner afin que lorsque tu te présenteras devant Dieu, tu aies les mains vides. Or, on ne se présentera pas les mains vides devant l'Éternel. Et moi, ce matin, j'ai pris la décision de lui reprendre tout ce qu'il m'a volé. Tant de fois, il m'a volé. Tant de fois, il est venu prendre des choses. Tant de fois, il est venu dire, il m'a culpabilisé. Il m'a rendu coupable de mes erreurs. Il m'a rendu coupable de choses que je n'avais pas faites. Encore cette semaine, si vous saviez la lutte que j'ai eue. Et Abraham lutte. Abraham, que fait-il? Il chasse ces oiseaux de proie. Il chasse les démons parce qu'il dit « Je ne veux pas qu'on touche à mon sacrifice. » Et la question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est « Est-ce qu'on m'a volé des choses ? Est-ce qu'on m'a pris des choses ? Ou est-ce qu'on est en train de me les prendre ? Et est-ce que je vais me laisser faire ?» Dieu n'a pas interagi contre les oiseaux de proie, il aurait pu le faire. Souvenez-vous de cela. Il a laissé Abraham le faire. Et c'est à toi à reprendre ce qui t'a été volé. Ta prière, c'est « Oh Dieu, rends-moi ce qu'on m'a pris. » Non, ne prie pas comme ça. Ta prière, c'est « Satan, tu me rends ce que tu m'as volé. » Au nom de Jésus. Alors, quelle relation ai-je avec Dieu ? Est-ce contrat? Quelle relation ai-je avec l'Église? Vous voulez que je vous dise un truc? Voilà comment je me considère vis-à-vis de vous. Je vais le faire avec mon épouse. Viens, lève-toi, chérie, s'il te plaît. Oh, tu vas te filmer, tu vas voir. Voilà comment nous nous considérons en tant que couple. Vous avez ici un couple miraculé. Il y a un peu plus de 40 ans, on a fait des bêtises tous les deux. Nous avons été adultères, miraculés par Dieu. Et depuis que Dieu a touché notre cœur, comment nous nous considérons, mon amour? Et, merci Charles. Maintenant, je vais vous montrer comment je me considère vis-à-vis de tout. Viens, Jean-François. Je pourrais considérer Jean-François comme un homme avec qui je fais un contrat. Voilà comment je me considère avec toi. Et avec chaque membre de cette communauté, je fais alliance avec vous. Ah, c'est vrai, nous ne sommes pas parfaits, mon frère. C'est pas vrai? Surtout moi. Mais nous nous considérons comme liés. Vous comprenez ça? Voilà comment je me considère avec vous. Et voilà comment nous devons nous considérer avec les autres. C'est pas un CDD que je veux faire avec lui. C'est pour l'éternité. Parce que dès lors que je considère que j'ai fait alliance avec Jésus, alliance avec le Père par Jésus-Christ, je ne peux pas me dissocier du corps du Christ. Je ne peux pas, parce que il est la tête du corps. Vous comprenez? Et dès lors que je me considère dans l'alliance, je me considère dans l'alliance avec lui. Et ça, c'est une image forte que vous devez retenir, mes frères et mes sœurs. C'est l'alliance dans laquelle nous sommes. C'est pas un contrat. C'est pas un CDD. Et même si on ne veut pas, à un moment donné, travailler avec l'autre, je le disais la semaine dernière, le Seigneur a suffisamment d'humour que nous soyons voisins au paradis. Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce que je vais devenir? L'homme et la femme de l'alliance ou l'homme et la femme du contrat? Revoyez vos relations de couple. Revoyez vos relations de frères et de sœurs. Revoyez votre relation avec Dieu. Parce que dès lors que nous allons nous reconsidérer dans l'alliance, nos mains ne seront plus vides, mes frères et sœurs. Nos mains, lorsque nous présenterons les mains devant le Seigneur, elles seront pleines de ce qu'il a voulu, à savoir l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Alors le monde verra qui est Jésus. J'ai fini. C'était lourd dans mon cœur. C'était lourd. C'était là. C'est un fardeau que je veux vous partager. Et si on s'unissait? Et si on revoyait notre manière de voir aujourd'hui notre relation avec Dieu? Si tu as brisé l'alliance, c'est le moment de te repentir. Je t'assure. Parce que Dieu ne veut pas que ça continue comme ça. Souviens-toi de l'image que je viens de donner de Marie et moi. Il a réparé. Il nous a donné un cœur nouveau. Il a fait de nous un couple nouveau. Et le miracle, il veut le faire pour chacun de ses enfants. C'est ce que dit sa parole. Reviens. Reviens vers le Seigneur et fais alliance avec lui. Fais alliance avec lui.